à toutes et à tous et bienvenue dans La Lorgnette. Cette semaine, on parle cybersécurité avec la diffusion d'une table ronde animée par Studio Zef lors de rencontres professionnelles organisées par l'association Les Promeneurs du Net 41 et enregistrées dans les locaux de Loir-et-Cher Tech. Protection des données, comprendre, agir, sécuriser, tel est le titre de cette table ronde que l'on vous propose tout de suite dans La Lorgnette. Bonne écoute! On attaque cette table ronde qui est intitulée donc Protection des données, comprendre, agir et sécuriser avec nos trois invités, donc Nathalie Crétois, Anne-Charlotte Rougelin et Richard Filigani. C'est ça. Vous allez vous présenter chacun à votre tour et puis présenter votre structure et vos fonctions au sein de la structure. On commence par Nathalie. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc juriste au Conseil départemental de l'accès au droit. C'est plus communément connu sous le sigle CDAD 41. Le CDAD est un groupement d'intérêt public, ce qui signifie que nous travaillons en partenariat avec des professionnels du droit, tels que les avocats, les notaires, les conciliateurs de justice, les délégués défenseurs des droits, par exemple. La structure est présidée par le président du tribunal judiciaire et son vice-président est le procureur de la République. Il y a un CDAD par département et ce sont des structures qui existent depuis au moins 30 ans. La création date de la loi 1991 sur l'aide juridique. Nous sommes deux, moi et ma collègue Clémentine Copin qui est coordinatrice. Moi, en tant que juriste du CDAD, je tiens des permanences, c'est le de suivante. Je tiens des permanences sur tout le département de Loir-et-Cher. Voilà, j'interviens sur tout le département de Loir-et-Cher. Je suis seule en fait à me déplacer, hein, nord-sud, est-ouest et centre. J'interviens également à la maison d'arrêt de Blois. J'y tiens une permanence. Deux fois par mois, et c'est une permanence qui me tient beaucoup à cœur. Je donne des informations juridiques aux détenus. Ils sont toujours titulaires de leurs droits, avec la difficulté, c'est qu'ils sont entre quatre murs. Voilà. Voilà pour ma présentation.
On reviendra évidemment des questions autour de ça. Anne-Charlotte Rougelin, bonjour.
Alors, bonjour à toutes et à tous. Déjà, je suis enchantée de vous rencontrer aujourd'hui. Personnellement, je suis juriste conseil à la CNIL, donc dans un service qui est dédié à l'information des publics. Donc, c'est vraiment le service qui est la porte ouverte de la CNIL pour les publics, tous les publics, donc les professionnels, les particuliers et tous les secteurs. Je tiens aussi une permanence du coup avec mes collègues tous les jours de la semaine, sauf le mercredi le matin, une permanence téléphonique où on reçoit vraiment tous les acteurs, toutes leurs questions et on essaye d'être le plus disponible et de s'adapter du coup aussi aux connaissances de chacun et aux besoins de chacun. On répond aussi à des demandes écrites. Donc, on reçoit 20 000 demandes écrites par an. Enfin, on en traite en tout cas 20 000, on en reçoit peut-être 30 000. Et on essaye de faire le maximum. On est une équipe de 15 et la CNIL, je ne sais pas si tout le monde connaît du coup la CNIL, j'ai été un peu trop rapide.
Vous pouvez représenter.
Voilà, donc la Commission nationale informatique et liberté. C'est une autorité administrative qui a été créée en 1978 avec l'entrée en vigueur de la loi Informatique et Liberté, une loi qui a été décidée pour protéger les données personnelles de chaque citoyen français de potentielles utilisations abusives ou malveillantes. Donc la protection de ces données, qu'elles soient détenues par des organismes publics ou privés et qu'elles soient détenues sur des fichiers papier ou numériques. Donc, cette autorité, elle a plusieurs fonctions. Donc, elle est souvent connue comme le gendarme du numérique. Elle n'a pas qu'une fonction de régulateur, même si c'est sa mission la plus connue. Elle est là pour informer, sensibiliser, protéger les droits des personnes. Donc, il y a un service des plaintes aussi qui reçoit donc les plaintes des citoyens. Donc, nous tous, hein, quand on est confronté à un litige ou à un problème, à un abus qui concerne nos données personnelles, on peut porter plainte auprès de la CNIL. Il y a aussi un service du coup qui est dédié, une direction qui est dédiée à l'accompagnement des acteurs pour les aider à se mettre en conformité, comprendre la réglementation. La CNIL produit énormément de contenu pédagogique pour les aider et aussi à développer des méthodes comme des bacs à sable pour les accompagner sur plusieurs mois. Et aussi un service du coup qui est plus deux services, un qui est assez nouveau, qui anticipe les nouvelles technologies et qui essaye d'être à jour de toutes les nouvelles innovations pour que la CNIL puisse aussi se rendre compte des nouveaux usages, des nouvelles pratiques qui sont mises en place et aussi voir comment on peut protéger au maximum les usagers et les informer sur ces technologies. Et dernièrement, le service des contrôles qui va chez les acteurs quand il a été informé par des plaintes ou via l'actualité, la CNIL peut s'auto-saisir également et partir en mission de contrôle. Et après, le service des sanctions qui, lui, instruit les dossiers après le contrôle et décide des montants des sanctions selon les manquements à la réglementation. Je vais être là, je pense que c'est assez complet.
Merci. Eh ben, dernier intervenant, donc.
Bonjour, Richard Filigani. Je suis délégué à la protection des données au sein du JPRECIA. Le JPRECIA, c'est un organisme cofinancé État, Région, Centre depuis 2003. Trois grands axes de compétences pour le JPRECIA. La moitié des 90 personnes qui travaillent au JPRECIA s'occupent des espaces numériques de travail et des infrastructures informatiques dans les lycées. Voilà, les ONT qui sont aussi développées pour les 6 départements qui sont membres du JIP. Une deuxième grand axe de compétences depuis à peu près 2018, l'accompagnement des collectivités territoriales à la dématérialisation des actes, des flux comptables, des marchés publics, des paraffeurs électroniques, tout un tas d'outils pour aider les collectivités. Et puis une équipe, un autre axe, l'équipe de 6 DPO qui ont en charge aujourd'hui à peu près 480 entités différentes. Alors nous assistons uniquement des organismes publics. Sur les 480, on est grosso modo 3/4 de communes. Après, on a des CCAS, des CIAS, des offices de tourisme, des syndicats intercommunaux, des SDIS, autrement dit les pompiers, on a les centres de gestion, etc. Donc tout un tas d'organismes publics et on se balade comme vous dans toute la région centre. Voilà.
Merci pour cette introduction et le rappel de vos fonctions et de la présentation de vos structures. Alors, on va commencer par le début, hein, si je peux me permettre, de quoi on parle quand on parle de protection des données, déjà,
oui.
Pour refaire un petit point de départ là-dessus.
Oui, c'est de quoi on parle s'agissant des données. C'est important, notamment dans le cadre de mes rendez-vous. Mm-hmm. C'est ça fait partie, en fait, de l'accès au droit. Le CDAD remplit une mission du ministère de la Justice, l'accès au droit gratuit pour tous, et la proximité géographique permet de remplir cet accès au droit. Donc, qu'est-ce que la protection juridique ? Qu'est-ce qu'une donnée personnelle ? En tant que juriste et également certifié DPO, certifié délégué à la protection des données personnelles, donc j'explique ce que c'est qu'une donnée personnelle. Et en tant que juriste, j'ai des réflexes, évidemment, de juriste. Article 4. Du RGPD, texte fondamental. Toute information, qu'est-ce qu'une donnée personnelle ? Il s'agit de toute information se rapportant à une personne physique identifiée et identifiable. Alors, je me permets de rappeler ce que signifie le RGPD. Règlement général de la protection des données du 27 avril 2016, avec, je pense, dans le cadre de la compréhension, en fait, de la réglementation. Il s'agit d'une réglementation européenne qui s'applique donc directement au sein des États de l'Union européenne. Et c'est donc une réglementation c'est un règlement qui s'est appliqué directement à nous, États français, en 2016.
Que le RGPD, quand il a été appliqué, on en a beaucoup parlé de cette norme européenne quand elle a été appliquée il y a quelques années, quand elle a été définitivement...
2016, avec une entrée en application un petit peu décalée.
Est-ce que c'est ce qu'on pouvait espérer de mieux au niveau européen ou est-ce que vous, à titre, pour le CDAD, il y avait d'autres avancées, d'autres règles que vous auriez espéré voir dans ce règlement européen ?
Alors, le RGPD n'est pas né de rien.
Ouais.
Il est né, je rebondis sur la précision de
Charlotte de la CNIL.
Exactement, on vient juste d'apprendre à se connaître. Loi informatique et liberté, voilà. Déjà, au pan législatif droit français. Depuis, il y a d'autres directives qu'on appelle notamment directive privacy. Ça peut être effectivement complexe. L'accès à l'information est absolument fondamental. Et je dirais qu'il faut vraiment se féliciter qu'il existe une telle législation au niveau européen. Et il faut se féliciter, je l'ai dit d'ailleurs à madame, je l'ai dit, il faut se féliciter aussi que existe en France cet organe absolument important qui est la CNIL. Mmh. Et j'en fais vraiment. J'utilise moi dans mon quotidien professionnel l'accès à la plateforme de la CNIL et j'explique aux usagers qu'ils peuvent eux-mêmes chercher l'information sur le site de la CNIL parce qu'il y a il existe des fiches pratiques, c'est très concret. Quels sont mes droits, la compréhension de mes droits, quels sont mes recours et comment puis-je faire quoi concrètement. Et les sanctions sont là. Il y a des sanctions.
Est-ce que Anne-Charlotte, loi RGPD, elle promeut, elle a dans son sang même, hein, dans son ADN, la volonté de l'égalité pour tous sur les droits numériques. C'est vraiment à la base de son fonctionnement, de son adoption, de son travail.
Oui, la philosophie du texte, c'est vraiment ça, c'est que tout citoyen a les mêmes droits. Donc vous en avez parlé, hein, les droits fondamentaux, le droit d'accès à ces données, savoir ce qu'un organisme détient sur nous, le droit à l'information, savoir ce qu'il fait de ces données-là, le droit à l'effacement, le droit au déréférencement, peut-être qu'on en parlera un peu plus précisément après, mais ces droits sont vraiment gratuits pour tous. Tous les organes existants qui traitent les données personnelles des citoyens français, européens, doivent appliquer et respecter cette réglementation. Donc, en effet, il y a vraiment cette notion d'égalité.
Ça veut dire que, sur un principe de base, le patron d'une entreprise qui manipule des données sensibles ou le consommateur qui fait ses achats pour Noël sur Le Bon Coin a la même protection à la base. Hein, évidemment, il y a d'autres systèmes de sécurité, mais ces deux entités, l'individuel qui surfe sur Internet ou le patron d'une grande entreprise publique, a les mêmes droits numériques.
Sur ses données personnelles, ouais. À lui, le ouais. Concernant. Ouais. Pas les données, du coup,
oui, bien
si,
sûr,
si l'employeur ou le patron lui collecte et donc est responsable de traitement, l'organe qui collecte les données, qui les traite, dans le texte, ça s'intitule « responsable de traitement », donc c'est un peu c'est une notion qui n'est pas toujours comprise. Là, il serait plutôt avoir des obligations. Il n'a pas, vis-à-vis des données qu'il collecterait, des gens seraient concernés. Mais lui, en tant qu'individu, en tant que père de famille, sportif peut-être dans une association ou consommateur, en effet, il aurait des droits il a des droits sur ses données personnelles à lui. C'est la même chose.
Quels sont, donc on a parlé de RGPD, quels sont les moyens pour la puissance publique donc, d'appliquer ces principes fondamentaux? Comment ça se passe? Je me tourne vers vous, Richard. Quels sont les outils dont vous disposez pour faire appliquer justement cette égalité pour tous et pour toutes?
Et le premier outil, évidemment, c'est nommer un délégué à la protection des données, ce qui est une obligation pour tous les organismes publics. Je voulais rajouter aussi sur le texte, c'est un règlement, et juridiquement, le règlement, en fait, il s'applique directement, tout de suite, à tout le monde, dans les mêmes termes. Hein, contrairement, par exemple, à une directive qui doit être retransposée, hein, c'est ça le terme juridique, transposée, donc réécrite dans chaque droit de chaque pays. Voilà, là, on a un texte qui est le même pour tout le monde, pour les 26 pays de l'Union européenne. Donc, ce qui permet d'avoir quelque chose qui est harmonisé partout et qui s'applique, du coup, à tous les Européens et sur tout le territoire européen. Et pour les organismes publics, une des premières obligations, c'est d'avoir un délégué à la protection des données qui va être, lui, la personne qui va informer, qui va conseiller, comme disait Anne-Charlotte, le responsable de traitement, autrement dit, l'organisme, qu'il soit public ou privé, l'organe qui collecte des informations sur des personnes physiques. Il est là aussi pour sensibiliser, pour former les élus, les agents, le personnel, pour contrôler, faire respecter le RGPD dans cette organisation. Établir aussi, aider, pas établir, parce que c'est le rôle du responsable de traitement, mais aider méthodologiquement, accompagner le responsable de traitement à faire ce qu'on appelle une analyse d'impact pour la protection des données quand on se rend compte qu'il y a des risques importants pour les personnes concernées dans la collecte de leur information. Ça peut être des papiers d'identité, des éléments qui pourraient être sensibles, sensibles au titre du RGPD, autrement dit des données de santé, des données d'opinion syndicale ou philosophique religieuse, quand de l'orientation sexuelle, quand, alors ces données-là sont de principe interdites de collecte directement, sauf dans des organisations qui sont dont c'est l'objet, hein, par exemple une association LGBT, évidemment, elle va connaître l'orientation sexuelle de ses adhérents, bien sûr. Mais une mairie, un CCAS ne doit pas collecter ce type d'informations par défaut. Par contre, ce sont des informations qui potentiellement peuvent être déduites de certaines situations. Voilà. Deux personnes qui se marient, si elles sont du même sexe, on peut légitimement en déduire leur orientation sexuelle. Voilà. Un couple qui va faire une demande de logement social, donc dans le formulaire officiel de l'État, le CERFA, il y a conjoint numéro 1, conjoint numéro 2, lien entre les deux conjoints. Si les deux conjoints sont du même sexe, on peut potentiellement en déduire leur orientation sexuelle. Voilà. Donc, quand il y a des données comme ça, vraiment très sensibles, ou qu'on identifie un risque important pour dans la collecte et dans le stockage et dans l'archivage de ces données, on peut faire donc une analyse d'impact. Et là, le délégué à la protection des données, DPO, alors c'est l'acronyme anglais et européen pour dire Data Protection Officer, voilà. Le DPO est là pour conseiller et orienter la méthodologie du responsable de traitement pour limiter au maximum les risques potentiels de fuite de données. Voilà. Et puis, le dernier rôle du DPO, c'est évidemment d'être le point de contact avec la CNIL, de coopérer avec elle quand elle est amenée à faire des contrôles dans un organisme, qu'il soit public ou privé.
Donc, auprès des agents publics, l'enjeu principal, c'est lequel ? C'est la formation de ces agents ? C'est une information plus collective ? C'est le déploiement d'outils ? Quels sont les enjeux auprès de ces structures-là ?
C'est évidemment l'information... Moi, en tant que DPO, j'aime toujours à répéter que ce qui nous préoccupe, nous en tant que DPO et pour les responsables de traitement, c'est la chose suivante. Que pourrait-il arriver à la personne concernée qui voit ces données fuiter ? Quels sont les risques pour elle ? Et en fait, tout notre travail, toute la collaboration qu'on va avoir avec... Pour nous, des organismes publics, mais un DPO, s'il est dans son entreprise, la même chose. Voilà, si votre carte d'identité fuit, si votre numéro de sécu fuit, votre IBAN fuit, quelles conséquences ça peut avoir sur la personne concernée ? Et donc, on va tout mettre en œuvre, que ce soit d'un point de vue technique, si c'est de l'informatique, des choses physiques, hein, très concrètement, on ferme ses armoires à clé le soir quand on part, ou si on n'a pas ça, bah, on ferme la porte du bureau. Voilà, il y a une alarme à la mairie. Enfin bon, voilà, on réfléchit ensemble pour mettre toutes les mesures en place. Évidemment, on jauge et on met le curseur à un certain niveau pour que ce ne soit pas non plus forcément hyper contraignant pour les personnes, parce que de toute façon, on sait très bien qu'à partir du moment où c'est hyper contraignant, bah, ça ne va pas être fait. Voilà. Donc, on est bien en train toujours d'adapter entre le niveau de risque et la faisabilité et... aussi, on va se baser sur la connaissance des personnes. Si les personnes, on voit beaucoup des gens qui ne sont pas forcément très très à l'aise avec l'informatique, et ben, bah, ils notent leur mot de passe sur un bout de papier, un petit carnet, etc. Bon, soit. Moi, je dirais aucun dogme, c'est que du numérique, etc. Non, vous avez votre petit carnet de mot de passe, pas de problème. Par contre, le soir, quand vous quittez votre travail, vous avez un coffre-fort en mairie, et ben vous le mettez dans le coffre-fort.
Avec un, voilà. avec un code secret numérique, évidemment.
Voilà. Mais du coup, voilà, on s'adapte toujours et on fait en sorte que vraiment, ce soit la personne concernée qui soit au cœur des préoccupations. Juste une petite illustration. Un jour, je vais dans une commune. Derrière la personne qui est à l'accueil, je vois parmi les armoires qui sont ouvertes, et c'est normal, les armoires sont ouvertes parce que la personne travaille, hein, bien sûr. Il y a un dossier, il y a marqué Présence verte. Présence verte, c'est un service d'assistance aux personnes. Voilà. Et je dis à la dame qui est là, bah, vous voyez, ce dossier-là, ça me semble... un élément à risque, ça peut attirer la convoitise de personnes malveillantes. Et là, elle me dit, bah, pourquoi ? Je ne comprends pas trop, dans le sens où dans ce dossier-là, il y a des personnes qui nous écrivent pour demander à la commune une participation financière pour pouvoir se payer ce service-là qui est payant de 20 à une cinquantaine d'euros par mois, selon le type de service. Donc, elle me dit, là-dedans, il y a des noms de personnes et puis leurs adresses, c'est tout. Donc, pas de données très, très sensibles. J'ai dit oui, effectivement. Par contre, qui sont ces personnes? Des personnes seules, chez elles, des personnes souvent âgées, des personnes qui sont potentiellement médicalisées, des personnes évidemment en difficulté financière, certainement en difficulté sociale, ou pas, mais bon, ça peut arriver. Donc voilà, forcément des personnes vulnérables. Donc oui, il n'y a que des noms, des prénoms, des adresses, mais en tant que personne vulnérable, une personne mal intentionnée vient vous demander une photocopie, vous allez dans la pièce d'à côté, il vous pique le dossier, il se barre avec, et voilà, il peut faire du cambriolage facile. Voilà. Et
un nom, un
voilà,
prénom, donc, une adresse sont des données sensibles, malgré.
Pas sensibles en tant que telles, mais en fait, on va toujours la ramener sur la situation potentielle. Qu'est-ce que ça indique de la personne? Qu'est-ce que ça déduit? Qu'est-ce qu'on en déduit? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Voilà.
Quand ça tombe dans des mains malveillantes. Eh ben, vous nous parliez d'un cas concret, Richard. Je me tourne vers les représentantes de la CNIL et du CDAD. Pareil, histoire d'être un peu concret, quels sont les cas en matière de protection des données qui vous sont le plus remontés de la part des usagers et des usagères, quel que soit leur lieu de vie, hein. Vous parliez de maison d'arrêt, mais voilà, ou pas d'ailleurs.
Oui, un exemple type.
Ouais, c'est ça.
Un rendez-vous, il y a un peu de temps, une personne se présente, m'expliquant que son problème, j'ai été filmée à mon insu dans un institut de beauté. La vidéo a été diffusée sur le réseau TikTok. J'étais en soins, on me reconnaît, je n'ai pas donné mon accord. Quels sont mes recours? Donc, première phase, comme tout jury, identification du problème de droit. Pardon. Identification du problème de droit, expliquer la donnée personnelle, la protection de la donnée personnelle, ce que ça signifie, concrètement parlant. On ne parle même pas d'RGPD, finalement. Et expliquer ensuite quelles sont les démarches qu'elle peut faire. Démarche auprès de la responsable de l'Institut de beauté avec une mise en demeure, expliquer les textes juridiques fondamentaux, l'article 9 du Code civil, le droit au respect de la vie privée. Expliquer aussi qu'elle peut déposer plainte, ça c'est du pénal. Expliquer que, parce que là c'est, je l'avais traité pour cet après-midi, la personne ayant commis cette infraction pardon, est susceptible d'être condamnée au titre de l'article 226.1 du Code pénal à un an d'emprisonnement au maximum et 45 000 euros d'amende. Lui expliquer que si elle nie la responsable de l'Institut de beauté, ni le réseau TikTok ne fait le nécessaire, elle a la possibilité de saisir la CNIL, et j'explique comment elle peut saisir la CNIL et que ces informations que je lui donne, s'agissant de la saisine de la CNIL, peuvent être retrouvées sur le site de la CNIL. Expliquer également, je reviens sur le début de mon exemple, le droit au respect de la vie privée, c'est et le droit à l'image, donc. C'est donner un accord écrit sur l'enregistrement même, sur la diffusion, sur la durée de la diffusion, éventuellement si c'est monnayé. Enfin, c'est très cadré. Et en tout cas, il faut un écrit.
Est-ce que, pardon, ce cas concret était à vocation d'un usage malveillant de cette vidéo, ou est-ce que c'était pour une vidéo de communication de l'entreprise sur les réseaux sociaux, et ça partait d'une méconnaissance des droits à l'image, des droits numériques, etc.
Alors, je ne sais pas s'il y avait une méconnaissance. Ouais. En tout cas, c'était en fait une démarche purement commerciale.
Mmh. Okay.
Il n'en reste pas moins.
Bien sûr, oui, j'en ai
voilà. C'est une démarche purement commerciale.
On n'était pas dans la malveillance ou
Non, selon les éléments d'explication de ce que cette dame en a pris, bien évidemment. Mais
Donc on voit la question aussi de l'accès au droit et de la connaissance de l'entièreté du système juridique.
Allez-y. Juste ce que je voulais dire, c'est que une fois que cette personne a été informée, elle qui se sentait perdue, l'accès à l'information lui a permis de comprendre ce qui lui arrivait, juridiquement parlant, et que concrètement, donc la prochaine étape, ce qu'elle pouvait faire. Elle a le pouvoir d'exercer ses droits.
Même question pour la CNIL. Donc voilà, c'est ce genre de cas, j'imagine, c'est banal.
Oui, oui. Alors c'est difficile de prendre une ou deux situations, ouais, parce qu'on a énormément de demandes diverses. Mais par exemple, en ce moment et depuis des années, il y a quand même une pratique et un usage énorme chez les particuliers de caméras. Mm-hmm. Donc, on a énormément de demandes concernant les caméras entre voisins, par exemple. Qui est un fléau, je crois, qui n'est pas que français, mais européen. Les outils sont de moins en moins chers et aussi les gens ont de plus en plus peur, ce qui est, voilà, je pense, un sentiment d'insécurité qui explique aussi ce besoin de se sentir protégé. Finalement, nous, on voit que ce n'est pas forcément efficace comme outil, mais parce que la technologie, c'est toujours bien, mais avec l'humain aussi derrière. Mais surtout, on voit que ça crée des tensions entre les gens parce qu'il n'y a pas assez de dialogue, il n'y a pas d'information. Et justement, cette notion de vie privée est quand même essentielle en droit français. Parfois, est pas perdue, mais les gens ne se rendent pas compte que quelqu'un peut se sentir filmé, même si ce n'est pas le cas, que ça crée des distances entre les gens. Et aussi, les gens ne comprennent pas les technologies. Donc quand on voit une caméra, on imagine qu'elle peut filmer à 360. Et ce n'est pas forcément le cas. Donc, il y a tous ces abus d'usage et la notion de vie privée est très, très importante. Et nous, on doit le rappeler, en fait, finalement, et s'adapter aux besoins. On comprend que les gens aient envie d'installer ce genre de dispositif. Donc, on n'est pas du tout dans le jugement. Mais on doit rappeler qu'ils peuvent le faire toujours en respectant la vie privée de leurs voisins, des gens qui sont livreurs, des personnes qui viennent travailler chez eux, etc., etc. Donc, ça, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a cet aspect dispositif dans ma vie personnelle. Et après, les questions qu'on a énormément, c'est tout ce qui est usurpation d'identité suite à des fuites de données. Donc malheureusement, on n'est pas forcément compétent. La CNIL, on donne des bonnes pratiques pour mettre en place un mot de passe solide, essayer de aussi faire en sorte de vérifier si on est victime ou pas d'une usurpation d'identité concernant nos données bancaires, nos coordonnées bancaires. Mais après, c'est vraiment les services de police ou cybermalveillance qui va prendre le...
Il viendra dans la deuxième table.
Voilà, voilà. Mmh. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup interrogé sur ces sujets-là, parce que les fuites de données, c'est dû à du piratage, mais aussi à des manquements de sécurité de la part des organes qui collectent des données. Donc là, en ce moment, c'est vraiment... Il y a eu une multiplication de fuites de données et donc énormément de gens nous sollicitent pour savoir comment se protéger. Et après, on a beaucoup aussi de questions, j'en donne trois après, d'employés vis-à-vis, plutôt de personnes dans leur vie professionnelle qui se plaignent parce qu'ils sont en litige souvent avec un employeur pour des raisons multiples souvent. Et il y a souvent l'utilisation de dispositifs de géolocalisation qui n'est pas forcément sans information de la part de l'employeur ou de caméras justement dans les locaux professionnels. Donc c'est vraiment l'aspect aussi d'information et de transparence qui touche le plus les gens, finalement, les particuliers dans le quotidien. Ça fait 8 ans que je suis dans ce service et je vois vraiment que c'est le fait de ne pas avoir été informé du pourquoi ça a été mis en place. Du coup, ça crée une méfiance. Comment c'est utilisé, etc., etc. Donc vraiment, la notion de transparence aussi, vous en parliez, le DPO, c'est vraiment aussi son rôle. Et même quand il n'y a pas de DPO, c'est vraiment au rôle de l'employeur aussi d'expliquer pourquoi il met en place des dispositifs.
Would you be interested in switching your internet service providers to a provider that provides better service of internet service providers than your current provider? I'm down, 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 I'm down
connection. I'm down, I'm in that connection. I'm down, I'm down, I'm in that connection. I'm down, I'm down, I'm in that connection. I'm down, I'm down, I'm in that connection. I'm down.
Que vous parliez de la sphère privée avec les problèmes de voisinage, etc. Mais en fait, la sphère professionnelle n'est pas du tout, épargnée, puisque de l'espionnage, on pourrait dire ça comme ça, c'est un grand mot peut-être, mais il y a cette question-là qui rentre aussi dans la sphère professionnelle. Parce que Diane Charlotte, c'est des choses que vous constatez, vous, au sein des entreprises publiques que vous côtoyez?
Alors, il y en a assez peu.
Ouais.
Alors, ça peut arriver, par exemple, les camions de ramassage de poubelles. Voilà, clairement, en général, ils sont géolocalisés. Mais là, on a très souvent, très majoritairement, en fait, des syndicats intercommunaux qui ont informé leurs employés que... Alors, ce n'était pas eux qui étaient surveillés, c'était juste le camion qui est géolocalisé parce que on optimise la collecte. Peut-être que la veille, ils ont oublié de ramasser une poubelle. La personne a téléphoné au syndicat. Ah, est-ce que vous pouvez la ramasser demain? Et donc, on voit en fonction de où est le camion. Ah, vous pourriez faire un détour pour aller ramasser la poubelle qui n'a pas été ramassée hier. Le camion tombe en panne ou éventuellement il y a des agressions. On sait tout de suite où il est et on peut secourir ou venir dépanner le camion. Mmh. Voilà. Donc, assez peu d'exemples dans le domaine du public, mais je rebondis sur ce que disait Anne-Charlotte. Il y a un des principes fondamentaux pour moi dans le RGPD, c'est celui de la transparence et de la loyauté. La transparence, on l'avait évoqué. Celle de la loyauté, c'est... je rebondis sur l'exemple que vous aviez signalé sur l'Institut de beauté. En gros, le principe, c'est dites ce que vous faites. Et surtout, faites ce que vous dites. Mmh. Voilà. Dans l'exemple-là, si le responsable de l'Institut de beauté avait dit à la dame, écoutez, on
veut faire une vidéo promotionnelle de notre institut.
Sur notre institut, est-ce qu'on pourrait vous filmer de dos, que vous ne soyez pas reconnaissable et qu'on montre un petit peu, on fait un massage, on fait un soin de beauté, etc. Voilà, et qu'on puisse le diffuser sur tel réseau ou sur notre site internet et il faut avoir l'accord, le consentement de la personne pour chaque support. Voilà. Ça se serait passé de manière toute naturelle. La personne aurait dit soit oui, soit non. Elle aurait été totalement informée de ce qui se passait. Et il n'y avait pas de problème. Pour toutes les personnes qui ont le sentiment ou qui disent « Ouais, avec le RGPD, on ne peut plus rien faire, etc. » Non, en fait, on a bien un cadre. Le cadre, il est, je trouve, que à la fois assez souple et que le législateur européen a écrit un texte qui était plutôt lisible. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un bac plus 5 en droit pour lire le texte. Il est plutôt lisible. Alors, effectivement, il y a quelques phrases où, avec les virgules, machin, etc., il faut quand même avoir une attention particulière. Mais, globalement, c'est assez, facile à lire, c'est accessible à tout le monde. Voilà. Et comme le texte, il est européen, du coup, il est disponible aussi dans toutes les langues de l'Union européenne. Donc, vraiment, en termes de « j'ai accès à l'information », c'est possible et c'est plutôt facile. Voilà. Il n'est pas caché, on marque RGPD dans n'importe quel moteur de recherche, on y a vraiment accès tout de suite. Il est disponible évidemment en intégralité sur le site de la CNIL, donc zéro problème. Donc ces principes de transparence et de loyauté, ils sont ultra importants. Voilà. Autant pour le responsable de traitement, celui qui collecte la donnée, il faut évidemment toujours se préoccuper de la personne, des informations de la personne concernée, comme je disais tout à l'heure, et en retour, c'est bien naturel d'informer cette personne. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de vos données ? Comment on les stocke ? Combien de temps on va les garder ? Est-ce qu'on les supprime un jour ? Etc. Voilà. Et sur les droits qu'on a évoqués tout à l'heure, le droit d'effacement ou de suppression de ces données, ben oui, si le RGPD dit, dans le principe, à partir du moment où vous n'avez plus besoin de ces données, il faut les effacer, le Code du patrimoine, en France, spécifiquement, dit, ben oui, quand vous êtes un organisme public, ben, il faut garder certaines données pendant un certain temps. Et donc, quand l'information est bien faite, la personne sait que telle ou telle donnée va être conservée pendant un certain temps auprès de l'organisme public parce que c'est une obligation légale et qu'on ne peut pas faire autrement, par exemple.
Question pour les représentantes de la CNIL et du CDAD. Est-ce que depuis, si on est sur les 5 dernières années, est-ce qu'il y a eu une augmentation, un plateau, voire une diminution du nombre de sollicitations et d'assistances nécessaires sur les dossiers ? Et qu'est-ce que ça peut dire ? Est-ce que vous avez des données à nous transmettre ?
Nette augmentation, pas forcément, mais je parle que pour mes, ouais. S'agissant de mes permanences. Augmentation, oui, c'est certain. Mm-hmm. En matière d'ailleurs d'usurpation d'identité. En matière d'usurpation d'identité, les conséquences peuvent être graves. Il faut prendre cela vraiment, évidemment, au sérieux. Hein. Ça fait partie, je dirais, de ce qui se passe aujourd'hui hein, dans notre société. Beaucoup de sollicitations et quand les personnes ne sont pas forcément aguerries ou n'ont pas la personnalité de dire non, parce qu'elles ne sont pas non plus informées. Mm-hmm. Si, hein. À partir du moment où on met le doigt dans un engrenage, il est difficile d'en ressortir sans séquelles, je dirais. Même on peut se faire voler, dérober son argent, c'est déjà important. Mm. Les conséquences psychologiques peuvent être dévastatrice aussi.
À la CNIL ?
Oui, une grosse augmentation. Regarde mon expérience, 8 ans, on voit que les gens prennent peut-être plus aussi, ont plus de connaissances sur leurs droits.
Ça témoigne d'une meilleure connaissance. Hein.
Oui,
on en revient sur le principe des violences sexuelles, par exemple, plus de plaintes sont déposées, ça veut dire que les gens prennent se saisissent de l'outil,
valable
pour la CNIL.
Ouais. Bah, totalement, et bon, déjà la donnée est partout dans notre vie maintenant. Beaucoup plus qu'il y a même 15 ans. Mmh. Même acheter un ticket de métro ou aller au cinéma, on nous demande nos coordonnées pour créer un compte. On nous propose des services de personnalisation partout. Donc, nous, on est aussi attirés et c'est bien. Ça peut être aussi des très bonnes pratiques. Mais c'est vrai que du coup, ces données, on les donne très facilement et les gens n'avaient pas forcément conscience tout de suite de l'utilisation malveillante qu'il peut y en avoir. Et même si elles ne sont pas générales, elles ont des conséquences graves, en effet, sur la vie des gens. Le croisement de données est tellement rapide qu'une fuite de données chez tel opérateur téléphonique avec 2-3 informations qui seraient croisées avec d'autres informations qui seraient issues d'une autre fuite de données peuvent permettre à des personnes malveillantes de usurper une identité ou d'obtenir des informations qui leur donnent accès à la messagerie électronique, etc., etc. Donc ça, c'est vrai que je pense qu'il y a encore à sensibiliser les gens là-dessus sur l'importance de se protéger soi-même. Et ça, c'est via l'information, la sensibilisation. Mais c'est vrai que nous, on a de plus en plus de demandes. C'est positif parce qu'on se dit que les gens sont aussi de plus en plus informés. C'est qu'aussi, ils ont de plus en plus de problèmes dans le quotidien avec leurs données.
Eh bien, glissons lentement vers la fin avant d'éventuellement échanger avec le public. Parlons des bonnes pratiques, justement. Comment on forme à ces bonnes pratiques ? Alors, dans les entreprises publiques, les individuels, les personnes individuelles que vous croisez. Voilà, qui prend la parole, Richard ?
Ouais,
la formation.
Je vais rebondir sur ce qui a été dit juste avant. Dans le RGPD, il y a un principe de minimisation. Autrement dit, l'organisme qui va collecter de l'information doit collecter que ce qui est strictement nécessaire à l'objet de ton activité. De l'autre côté, les personnes qui vont donner de l'information doivent aussi avoir conscience avoir cette conscience-là et se dire « je ne donne que ce strictement que ce qu'on me demande. Prenez l'exemple de un site internet, votre banque, votre assurance qui vous demande un justificatif de domicile. Bon, aujourd'hui, le plus facile, c'est soit votre opérateur téléphonique, soit votre opérateur d'électricité ou de gaz. Bon, voilà. Si vous prenez l'opérateur d'électricité ou de gaz, voilà, vous avez votre nom et votre domicile, OK. Mais sur le justificatif, il va y avoir aussi plein d'autres informations. Il y a votre point de livraison, hein, un numéro qui vous identifie comme quoi c'est votre ligne électrique ou votre canalisation de gaz. Il y a potentiellement votre numéro de client parce qu'ils font référence, voilà, vous êtes à un contrat avec eux. Voilà, bah, avant de donner ce document-là à votre banque et à votre assurance, bah, rayez toutes ces informations-là qui ne sont pas directement utiles à votre banque et à votre assurance. Là, votre banque, elle n'a pas besoin de connaître votre numéro de client chez Veolia ou chez Enedis. Voilà. Donc, ça peut aussi marcher dans les deux sens. Quand on est sur Internet, bah, avec votre navigateur, bah, vous bloquez tous les scripts qui vous donnent des données à des sites tiers autres que le site sur lequel vous allez. Utilisez des bloqueurs de publicité. Désactivez l'accès à votre localisation. Voilà, alors ça sur le navigateur aujourd'hui, même les systèmes, hein, même votre système, Microsoft, il veut vous géolocaliser tout le temps. Mais pourquoi ? Enfin, pour quelle raison ? Voilà, donc enlever cette géolocalisation sur les téléphones, elle est, on va dire, par défaut activée, désactivez-la. Vous avez pas, vous voulez aller d'un point A à un point B, vous prenez la route ou vous allez vous balader, d'accord, ouais, vous géolocalisez parce que ça vous aide.
On l'active mais, qu'à ce moment-là,
c'est ça,
notre Google Maps.
Voilà, votre application bancaire n'a pas besoin de vous géolocaliser. Vous allez au cinéma, pourquoi vous géolocaliser ? Non, vous savez que vous allez au cinéma à Blois. Enfin, vous connaissez normalement à peu près où il y a le cinéma. Voilà, donc faites ça. Utilisez un navigateur qui est respectueux de la vie privée.
On peut les citer peut-être.
Voilà, il y a par exemple un site internet qui est bien fait qui s'appelle privatistest.org et qui liste les principaux navigateurs et qui, selon les différentes fonctionnalités et capacités, voilà, disent bah, là, vous êtes protégé ou là, vous n'êtes pas protégé. Voilà. Paramétrez vos smartphones aussi. Voilà, renseignez-vous sur les applications que vous installez. Il y a le site Exodus Privacy qui est capable de faire la liste par application de tous les pisteurs qui sont voilà, liés à cette application-là. Pourquoi toutes les applications vous demandent l'accès à vos contacts. Voilà. Il y a la CNIL a très bien rappelé que ce soit des sites internet ou les applications mobiles, elles ont absolument les mêmes devoirs en termes d'information des consommateurs, voilà, ou des utilisateurs. Bon, pourquoi votre application du Bon Coin demande votre accès à tous vos contacts ? C'est juste, et l'utilisateur n'a aucun levier pour dire, ben non, je refuse de vous donner cette donnée-là. Mais pourquoi ? C'est complètement hallucinant en fait. Voilà.
Anne-Charlotte, sur les bonnes pratiques.
Bonnes pratiques, souvent, on essaye de dire aux gens que c'est du bon sens, comme vous le disiez tout à l'heure. On ne laisserait pas notre carte bleue comme ça
à quelqu'un dans la
rue. À quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, vraiment se dire qu'est-ce que je peux mettre en place. Donc, évidemment, ça dépend de vos métiers, ça dépend de vos activités quotidiennes. Mais essayez de déjà avoir un mot de passe vraiment complexe et que vous renouvelez assez souvent. Complexe, ça veut dire vraiment, c'est la base, hein, pas de prénom, pas de nom de famille, pas de date de naissance, ça paraît bête, mais tout le monde le fait, tout le monde l'a fait. Ne pas le stocker dans son adresse de message, sa messagerie électronique, ne pas le stocker sur un carnet. Et si c'est le cas, dans un carnet, dans un coffre-fort ou dans un endroit le plus caché de la maison possible. Voilà, moi, je dis ça aux membres de ma famille parce que tout le monde me dit, oui, mais c'est embêtant, moi, je ne sais pas utiliser telle ou telle technique. Bon, bah, essayez il faut toujours dire ça aux gens. Soyez le plus protecteur pour vous-même parce que quelqu'un qui tombe sur ce mot de passe va se dire que c'est peut-être le même mot de passe pour tous vos services en ligne, tous vos comptes en ligne, ou va tenter possibilités. En plus, maintenant, les arnaqueurs, on va dire, hein, utilisent des algorithmes. Donc, en fait, un mot de passe peut être débloqué en quelques secondes. Il suffit d'avoir 2-3 informations sur votre vie, le nom de votre enfant, le nom de votre chien, où vous habitez. Bah, on peut très vite en déduire votre mot de passe. Donc ça, je pense que tous les jours, vous devez côtoyer des personnes qui vous posent cette question et qui vous disent « Oh là là, mais moi, je ne peux pas retenir 14 mots de passe, c'est embêtant. » Donc, utiliser des gestionnaires de mots de passe aussi qui peuvent être sécurisés et qui sont sécurisés et qui sont beaucoup plus faciles du coup pour la personne parce qu'ils n'ont qu'à retenir un seul mot de passe qui va ouvrir ce coffre-fort numérique où il y aura tous les mots de passe du coup de tous ces services en ligne. Ne pas divulguer du coup des informations aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, essayer de on peut en divulguer mais réfléchir
à quoi servent les réseaux sociaux alors.
Voilà, non mais les réseaux sociaux évidemment, mais est-ce que ça vaut le coup d'avoir un compte public où tout le monde a accès à mon image, à mes photos en vacances, à les photos de ma petite nièce, etc. Toujours se poser cette question-là. Qui est derrière sur Internet à qui je parle derrière un pseudo, c'est qui à qui je divulgue mes informations est-ce que c'est nécessaire que je donne cette information-là ? Nous, on a eu des cas, et je pense que vous en avez entendu parler dans la presse, des gens qui donnaient tellement d'informations sur les réseaux qu'on pouvait les pister et savoir quand ils étaient en vacances et du coup des cambrioleurs en ont profité pour cambrioler chez eux. C'est un petit exemple, hein. Il y a plein d'autres exemples comme ça. Mais
on pense que ça nous arrivera jamais, mais
en fait on laisse énormément de choses sur Internet, énormément de traces ça on se dit ça va intéresser personne, mais malheureusement ça intéresse et ça peut intéresser dans le bon sens des organes qui en font des choses intéressantes et enrichissantes pour la société on va dire. Et d'autres personnes qui voient seulement la manière de peut-être s'enrichir et d'usurper des personnes vulnérables ou pas. D'ailleurs, parce qu'on parlait des personnes vulnérables, mais il y a aussi les gens se font avoir tous les jours, et même les agents de la CNIL, et je pense que toutes les personnes les plus sensibilisées se font avoir parce que les nouvelles techniques sont tellement pointues. Les arnaques au colis, les mails qui ressemblent tellement à des mails d'acteurs officiels. Donc ça, en fait, il faut rester tout le temps vigilant.
Pour rebondir sur les exemples donnés par Richard, un exemple, pourquoi désactiver sa géolocalisation ? Votre localisation permet à certaines compagnies d'assurance, prévoyance, de proposer des tarifs en fonction de là où vous habitez, en fait. Hein. Les tarifs peuvent être différents si vous habitez dans l'est de la France, hein, en Alsace. Ou en Charente-Maritime. Et oui, par exemple. Je rebondis également sur la nécessité de se poser la question pourquoi je devrais donner mon consentement pour accéder à un site internet. C'est pas rien de cliquer sur oui, je donne mon consentement.
Coucher ou non les cases en bas du formulaire.
Oui, c'est pénible, mais il faut choisir. À qui, au fournisseur, quel fournisseur. C'est très important. Et puis, s'agissant du droit à l'image, Anne-Charlotte, de la diffusion d'images de ses vacances avec ses enfants, diffusion d'images uniquement de ses enfants, moi, j'appelle ça une bombe à retardement, en fait. Ça peut créer d'énormes problèmes pour nos enfants qui n'ont pas la maîtrise de je décide si telle ou telle photo sera diffusée sur le réseau. Et dans 10, 20, 30 ans, nos enfants nous diront « mais j'ai jamais donné mon accord pour que cette photo de moi petit dénudé sur la plage soit diffusée ». Par ailleurs, avec l'intelligence artificielle, les photos de nos enfants peuvent être manipulées à des fins pédopornographiques. Ce n'est pas rien. On a une responsabilité. Donc, toujours se poser la question. Bref, moi, ce que je dirais, soyons un peu parano pour notre bien, pour soi et pour nos proches et à l'égard des personnes pour lesquelles nous travaillons et avec lesquelles nous travaillons.
Très bien. Une dernière question, Anne-Charlotte. Vous disiez, et vous en parliez aussi, Nathalie, du fait que tout allait trop vite, de l'IA et des progrès permanents de la technologie. Est-ce que l'instance de régulation qu'est la CNIL n'a pas toujours un train de retard par rapport à la... C'est valable pour d'autres. Hein. Moi, dans mon secteur d'activité, c'est l'ARCOM, à qui on reproche souvent d'avoir aussi un train de retard sur plein de questions. Est-ce que la CNIL n'est pas... malgré tout un peu démunis face aux avancées massives et rapides.
Question piège.
Ouais, je sais.
C'est compliqué. Moi, en plus, j'évolue en interne, mais la CNIL a quand même développé deux services importants, un laboratoire de recherche et d'innovation. Donc, bon, Évidemment, hein, c'est limité puisque le nombre d'agents est petit. Hein. Il y a vraiment 5 personnes dans le service nouveau de l'intelligence artificielle, 5 personnes qui travaillent pour ce laboratoire, qui sont des ingénieurs, qui sont des sociologues, qui étudient les nouvelles pratiques, qui essayent vraiment de comprendre ce que ces nouvelles technologies, ces nouveaux outils permettent de faire ou pas, et du coup de produire des contenus pédagogiques aussi pour que bah, les citoyens comprennent. Mais c'est vrai que forcément, c'est tellement peu, c'est une goutte d'eau face à voilà, toutes les nouveautés. Et par exemple, l'intelligence artificielle, on le sait tous, ça fait plus de 20 ans qu'il est, qu'elle est utilisée dans, on va dire, la société civile, bien avant pour d'autres usages. Et pourtant, c'est que là, depuis 2-3 ans, qu'on en parle tous et qu'on a tous l'utilisation, par exemple, d'agents conversationnels ou d'assistants conversationnels. Et avant, on ne les utilisait pas autant. Donc, c'est vrai que... C'est délicat pour un acteur comme la CNIL d'être tout le temps à jour.
Bien sûr.
Et évidemment, et le droit aussi, et lui aussi arrive souvent après. Hein. Donc, c'est ça aussi, c'est que même si elle est connaisseuse de techniques et de technologies, malheureusement, oui, sanctionner des pratiques, il faut aussi qu'il y ait du droit. Et donc, ce droit, on est tributaire du Parlement et du Parlement européen. Donc, c'est sûr.
Il n'y a pas que vous qui avez du retard.
Ouais, c'est tout un système.
Tout un rouage.
Mais oui, ça peut sembler être en décalage.
Bien sûr. Eh bien, donc merci Richard Filigani, donc du GIP Récia, Anne-Charlotte Rougelin, donc de la CNIL, et Nathalie Crétois du CDAD. On rappelle certains mots qu'on a utilisés pendant cette table ronde qui vous ont été demandés de contribuer public à un nuage de mots. Donc réglementation, la compréhension, la confiance, la vie privée, la démocratie, le RGPD évidemment, le droit, les données sensibles, l'usurpation d'identité, on en a parler, la confidentialité, la sécurité, le piratage, j'en ai oublié, fondamental, on a dit démocratie, je ne sais plus si je l'ai dit, les cookies, ces petites traces, voilà, qu'on en a aussi beaucoup parlé. Merci à tous et à toutes, merci à vous trois.
Merci.
Merci d'avoir écouté cette émission, vous pouvez évidemment la retrouver en podcast sur le site de Studios F à la page de La Lorgnette. À 18h, c'est La Roxette avec l'ami Christophe. Bonne fin de journée sur les ondes de Studios F.